Radio Vatican, France-Afrique.
Amis auditeurs, vous êtes bel et bien à l'écoute de Radio Vatican. Merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition de notre programme, dont voici les principales articulations. Dans l'actualité de l'Église, il sera question des audiences du pape au cours de la journée du lundi, des nouvelles de l'Église Famille de Dieu qui est au Burkina Faso, dans les deux Congo et au Tchad. En ce qui est de l'actualité sociopolitique, nous parlerons de l'accident de train en Égypte qui a fait au moins 11 morts et plus d'une centaine de blessés dimanche. Et nous nous rendrons aussi au Cap-Vert, en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud, entre autres. À tous et à toutes, merci d'être à l'écoute de Radio Vatican.
Radio Vatican, France et Afrique, Françoise Niémier.
Le Saint-Père a reçu tour à tour lundi en audience privée Mgr Yves Lussault, évêque du Mans en France, et Mgr Marco Mpegnasso, président de la communauté de Sant'Egidio. C'était le 19 avril 2005, après qu'une fumée blanche s'échappa, que le cardinal Joseph Ratzinger fut présenté au peuple de Dieu comme 265e pape sous le nom de Benoît XVI. Pendant 8 années de pontificat, le pape théologien, aujourd'hui âgé de 94 ans, s'est consacré à la mise en œuvre du Concile Vatican II dans la continuité de la tradition de l'Église. Un consortium d'organisations non gouvernementales catholiques dirigé par Caritas Suisse a entamé au Burkina Faso un projet d'appui à la protection des migrants les plus vulnérables sur les routes du Sahel, PROMISA, en sigle, pour une durée de 3 ans. Financé par l'Union européenne pour un montant de 329,2 millions de francs CFA, le projet est exécuté conjointement par l'ONG américaine Catholics, Relief Service Mali et Niger, Caritas Mali, l'Organisation catholique pour le développement et la solidarité, OCADES Caritas Burkina et Welt Unar Hilfer en Allemagne. Ce projet concerne le Burkina Faso, le Mali et le Niger, considérés comme des pays de transit de migrants. Il vise les femmes et les jeunes filles, ainsi que les migrants victimes de la traite et ceux qui ne veulent pas rentrer dans leur pays d'origine ou d'une réinsertion sociale, a précisé l'Organisation catholique pour le développement et la solidarité. Au Tchad, il s'est tenu du 13 au 17 avril dernier au centre diocésain Bethel de Bakara, dans l'archidiocèse de N'Djamena, les travaux de la 28e assemblée annuelle des supérieurs majeurs des congrégations présentes dans le pays. Cette assemblée a vu la participation d'une dizaine des délégués de congrégations sur les 66 œuvrant au Tchad. Plus de détails dans ce reportage.
C'est dans un contexte restrictif imposé par la pandémie à coronavirus que quelques délégués de la CSMT, entendus conférence des supérieurs majeurs du Tchad, ont pris part activement à leur assemblée annuelle. Le père Fidèle Kansan, président de la CSMT, parle d'une assemblée surprise, mais en même temps se réjouit du petit reste qui croit que demain sera meilleur.
C'est une assemblée surprise. On devait la célébrer en février, mais il y a eu un peu de bousculade dans les programmes. Il y a aussi le contexte des élections, mais l'histoire se construit toujours à partir d'un petit reste qui croit que demain sera meilleur.
La sœur Paula Nelumta, vice-présidente de la CSMT, revient quant à elle sur les deux temps forts qui ont marqué cette assise.
Le thème de la formation, c'était des clés de lecture pour approfondir le document Fratelli Tutti. Le document a été réédité, il y a eu une version accompagnée des introductions des agents pastoraux du Tchad. Ces introductions nous mettent dans le contexte de la vie de l'Église au Tchad, de la mission au Tchad. La deuxième partie concerne la vie de la CSMT, faire évoluer un projet de la création d'école normale des instituteurs.
Notons que cette assemblée a vu également la participation du président de la conférence épiscopale du Tchad, Mgr Edmond Ditangar, et du chargé d'affaires à la nonciature, Mgr Blaise Miaita. Severin Dingatolum pour Radio Vatican.
Allons en République démocratique du Congo, où de nombreuses personnes nient encore l'existence de la COVID-19. C'est pour cette raison que Caritas a lancé un projet de sensibilisation dans les lieux les plus fréquentés de Kinshasa. Dans un quartier de la capitale Kinshasa, précisément au marché du rond-point de Ngaba et aux alentours, les vendeurs, les acheteurs, les conducteurs de véhicules, les passagers des transports publics et les passants ont participé à une série d'initiatives pendant 3 semaines. Le projet qui a bénéficié du soutien de l'autorité provinciale, des maires des communes de Makala et de Ngaba, de l'administration du marché et de l'association des vendeurs a commencé par la désinfection du marché. 2000 commerçants ont été impliqués et des informations ont été diffusées auprès de la population. Cette initiative a été bien accueillie et appréciée par les commerçants et les visiteurs du marché. L'idée est maintenant d'étendre le projet à d'autres marchés pour sensibiliser aux précautions à prendre pour contenir la pandémie. Restons en République démocratique du Congo. Notre correspondant local nous conduit au diocèse de Maginyoka pour faire écho de l'ordination sacerdotale du vendredi 15 avril dernier.
Le diocèse de Maginyoka dans la province de l'Ituri compte un nouveau prêtre depuis le vendredi 15 avril. C'est M. l'abbé Simon Agui. Il est le 13e prêtre originaire de la paroisse Notre-Dame du Congo d'Aru, localité située dans le nord du diocèse, non loin de la frontière de l'Ouganda et du Soudan du Sud. L'évêque de Maginyoka, Mgr Sostena Yukuli, a imposé les mains sur le diacre Simon Agui et l'a ordonné prêtre au cours de la messe célébrée sur le podium dressé pour le grande fête sur le parvis de l'église. Une vingtaine de prêtres ont concélébré. Monsieur l'abbé Jean-Marie Assédri, un prêtre aîné, coordinateur des écoles conventionnées catholiques, avait été choisi et il a pris la parole au début de la messe pour féliciter et remercier les parents qui entouraient leur enfant, le jeune diacre, debout avec eux devant l'autel. À l'homélie de la messe, Mgr Sostena Yukuli s'est aussi adressé à l'Assemblée du peuple des dieux et l'a exhorté à soutenir le nouveau prêtre. À Simon Agui, l'évêque de Maginyoka a demandé de faire désormais honneur aux fidèles venus l'entourer grâce à sa triple mission sacerdotale d'enseigner, de sanctifier et de gouverner. L'évêque a révélé à la fin de la messe qu'il envoie le nouveau prêtre commencer son ministère à la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Jalousséné. Le curé de la paroisse Notre-Dame du Congo, M. l'abbé Jean Oumika, a dit la fierté de sa paroisse de compter parmi ses fils et filles 13 prêtres et 13 religieuses depuis 1960, année de fondation de la paroisse. Jean-Baptiste Malengue Kalunzu pour Radio Vatican.
Allons dans l'autre Congo, Congo-Brazzaville. Les évêques et les membres des commissions épiscopales accompagnés des laïcs se sont réunis à Brazzaville, au centre interdiocésain des œuvres, du 13 au 14 avril dernier pour la tenue de la session pastorale annuelle de la conférence épiscopale sous la présidence de Mgr Daniel Mizonzo, évêque de Nkayi et président de la conférence épiscopale de son pays. Cette année, l'événement qui a rassemblé plusieurs personnes s'est déroulé dans un cadre réduit en raison des mesures barrières imposées par la pandémie à coronavirus. Au cours de cette session, les commissions épiscopales ont fait le point de leurs activités de l'année pastorale écoulée et ont projeté la nouvelle année. Aussi, les participants ont observé une minute de silence en mémoire de Mgr Bernard Nzayi, évêque émérite de Nkayi et ancien président de la conférence épiscopale du Congo, de Christian Cardinal Ntoumi, archevêque émérite de Douala au Cameroun, ainsi que les autres évêques d'Afrique centrale décédés tout récemment. Plus des détails avec notre correspondant local.
C'est devant une assemblée réduite en raison du respect des mesures barrières imposées par la pandémie du coronavirus que les évêques du Congo ont passé en revue la vie des commissions épiscopales. L'abbé Brissi Bombo, secrétaire général, nous donne un bref aperçu de ces travaux de 3 jours.
La session s'est bien déroulée malgré l'état d'urgence sanitaire marqué par la pandémie du coronavirus. Toutes les commissions épiscopales ont présenté leurs rapports ainsi que les aumôneries, les mouvements d'apostolat et les séminaires. En bref, tout s'est bien passé selon la volonté de Dieu et aux attentes de tous.
À la suite des échanges fraternels et fructueux, les évêques ont formulé quelques orientations pastorales à leurs collaborateurs.
Après avoir écouté attentivement et paternellement, les évêques ont demandé aux commissions épiscopales de s'engager encore avec beaucoup d'ardeur, beaucoup d'énergie pour faire connaître le nom de Dieu, le nom de Jésus pour une évangélisation en profondeur. Les évêques leur ont demandé aussi la persévérance malgré les difficultés financières, mais aussi la transparence dans la gestion des ressources humaines et matérielles.
Pour rappel, la session pastorale annuelle est l'un des grands rendez-vous de la Conférence épiscopale du Congo avec l'Assemblée plénière et la retraite spirituelle. Sévérin Moussavou, Brazzaville pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
L'armée tchadienne a affirmé lundi avoir tué plus de 300 rebelles du Front pour l'Alternance et la Concorde qui mènent une incursion depuis 8 jours dans le nord du pays et perdu 5 militaires dans des combats samedi. Le général Bermandoa a affirmé que 36 soldats ont été blessés. Le groupe rebelle, le Front pour l'Alternance et la Concorde au Tchad, a lancé une offensive depuis ses bases arrière en Libye le 11 avril, jour de l'élection présidentielle, pour laquelle le sortant Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 30 ans, est donné gagnant. Dans un autre registre, des affrontements entre éleveurs et cultivateurs ont fait de nombreux morts et blessés ces derniers jours dans le sud-est du Tchad. Selon la Commission nationale des droits de l'homme, des ONG tchadiennes et un hôpital de la région. Aucun bilan précis n'est disponible pour le moment. Au moins 11 personnes ont été tuées et près de 100 autres blessées dimanche dans le déraillement d'un train au nord du Caire en Égypte, 3 semaines après une collision ferroviaire meurtrière dans le pays, d'après un dernier bilan du ministère de la Santé. Selon le gouvernement, 4 wagons du train qui se rendaient au Caire à Mansoura, à 130 km plus au nord, ont déraillé au niveau de la cité agricole de Touk. Des enquêteurs ont été envoyés sur place pour tenter d'en établir les causes. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a chargé le génie militaire d'enquêter sur ce nouveau drame. D'après une source sécuritaire, le conducteur du train et d'autres responsables ferroviaires ont été détenus pour être interrogés. Ancien pilier du régime de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, acquitté comme lui de crimes contre l'humanité par la justice internationale, Charles Blé Goudé a indiqué lundi que la Cour pénale internationale, CPI, s'est engagée à l'aider à obtenir un passeport. La Cour pénale internationale a pris l'engagement de mener les démarches pour l'obtention de mon passeport à l'issue d'une réunion tenue le 6 avril avec le greffe, a affirmé Charles Blé Goudé. Tous les documents nécessaires pour l'établissement de mon passeport ont été remis à la CPI, a-t-il ajouté. Le président Alassane Ouattara a donné le 7 avril son feu vert au retour en Côte d'Ivoire de l'ex-président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé une semaine après leur acquittement. Contrairement à Laurent Gbagbo, qui aura droit au traitement réservé aux anciens présidents et dont le voyage de retour sera pris en charge par l'État ivoirien, M. Ouattara n'a pas mentionné de disposition particulière concernant Charles Blé Goudé, qui lui a toutefois exprimé sa gratitude pour son geste. En Afrique du Sud, le département des PAC a indiqué lundi la mort d'un braconnier présumé pendant le week-end après avoir été piétiné par un troupeau d'éléphants alors qu'il tentait de fuir des rangers avec 2 complices dans le célèbre parc Grunger.
Radio Vatican, Français Afrique, Françoise Niamier.
Au Cap-Vert, le mouvement pour la démocratie du premier ministre sortant Ulysses Correia et Silva, au pouvoir depuis 2016, était largement en tête à l'issue des élections législatives organisées dimanche dans l'archipel ouest africain, selon des résultats officiels provisoires portant sur près de 95% des bureaux de vote. Le Cap-Vert est doté d'un régime semi-parlementaire où le premier ministre domine l'exécutif, le président Jorge Carlos Fonseca exerçant un rôle d'arbitre.
Vous écoutez Radio Vatican, c'est l'heure du magazine.
Poursuivons notre programme avec le magazine consacré à la santé, Camille Moukoso.
La santé, un problème pour tous, un défi pour les sociétés et l'Église en Afrique.
Notre magazine du jour sur la santé se focalise sur les nouveaux pactes mondiaux pour accélérer la lutte contre les diabètes, lancés le mercredi dernier par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et le gouvernement du Canada avec l'appui de l'Université de Toronto. Au cours de l'événement, le président du Kenya, M. Uhuru Kenyatta, s'est joint au premier ministre des Fidji, de la Norvège et de Singapour, à l'ambassadeur mondial de l'OMS chargé des maladies non transmissibles et des traumatismes, M. Michel Bloomberg, et au ministre de la Santé des différents pays, ainsi qu'aux experts sur les diabètes et aux personnes atteintes de diabète, afin de présenter par quels moyens ils appuieront cette nouvelle initiative qui est le fruit d'une action concentrée. L'urgente nécessité de lutter contre les diabètes n'est jamais apparue aussi clairement, a déclaré le docteur Tedros Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Le nombre de personnes atteintes de diabète a quadruplé au cours des 40 dernières années et il s'agit de la seule grande maladie non transmissible pour laquelle le risque de mourir tôt est en augmentation plutôt qu'en baisse. En outre, une proportion également des personnes hospitalisées pour des formes graves de la pandémie du nouveau coronavirus sont atteintes de diabète. Le pacte mondial contre les diabètes contribuera à renforcer l'adhésion politique aux mesures visant à accroître l'accessibilité, notamment l'accessibilité économique, des médicaments vitaux contre le diabète, ainsi qu'aux mesures de prévention et de diagnostic. L'une des plus grandes urgences est de renforcer l'accès aux outils de diagnostic du diabète et aux médicaments contre le diabète, en particulier à l'insuline dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Le lancement par l'OMS en 2019 d'un programme pilote visant à préqualifier l'insuline a constitué une étape importante. Des discussions ont déjà été enregistrées avec des fabricants d'insuline et d'autres médicaments contre le diabète ainsi que des outils de diagnostic sur les moyens de faire face à la demande tout en pratiquant des prix abordables pour les pays. L'insuline n'est pas la seule ressource rare. Beaucoup de personnes peinent également à se procurer des lecteurs de glycémie et des bandelettes réactives à des prix abordable. Par ailleurs, près de la moitié des adultes atteints de diabète de type 2 ne sont toujours pas diagnostiqués et la moitié des personnes atteintes de ces types de diabète n'obtiennent pas l'insuline dont elles ont besoin, ce qui les expose à un risque évitable des complications invalidantes et irréversibles comme la mort prématurée, l'amputation des membres et la cécité. L'innovation sera l'un des éléments centraux du pacte et l'accent sera placé sur la mise au point et l'évaluation des technologies à faible coût et des solutions numériques pour la prise en charge du diabète. Le pacte mettra l'accent sur les renforcements des progrès en définissant des objectifs mondiaux en matière de portée de la prise en charge du diabète. Estimer le niveau des dépenses à l'échelle mondiale permettra de qualifier les coûts et les avantages associés à la réalisation de ces nouveaux objectifs. Le pacte préconisera le respect de l'engagement pris par les États d'inclure la prévention et la prise en charge du diabète dans les soins de santé primaire et les programmes visant à atteindre la couverture sanitaire universelle. L'un des principaux objectifs du pacte mondial contre les diabètes est d'unir les principaux parties prenantes des secteurs publics et privés et, chose essentielle, les personnes atteintes de diabète autour d'un projet commun afin d'imprimer un nouvel élan et de trouver ensemble des solutions, a déclaré le Dr Bennett Mixen, directeur du département des maladies non transmissibles de l'OMS. L'approche tout à l'œuvre adoptée face à la pandémie du nouveau coronavirus nous montre toute l'étendue des réalisations possibles lorsque différents secteurs s'unissent pour trouver des solutions à un problème urgent de santé publique. Lors du sommet, des personnes atteintes de diabète vivant aux États-Unis, en Inde, au Liban, en Tanzanie, à Singapour et au Zimbabwe se sont exprimées. Elles ont raconté les difficultés qu'elles rencontrent pour prendre en charge leur diabète et ont fait l'ébauche des solutions possibles pour surmonter ces obstacles. Une partie du sommet a été pensée avec les personnes atteintes de diabète et a donné à ces personnes l'occasion d'exprimer au monde ce qu'elles attendent du pacte et la façon dont elles souhaiteraient être associées à son perfectionnement et à sa mise en œuvre. Il est temps de donner une impulsion non seulement pour garantir que les personnes atteintes de diabète puissent vivre, mais aussi s'épanouir, a déclaré Madame Aprogomer, une défenseuse du diabète atteinte de diabète de type 1 qui a participé au sommet. Nous devons saisir à deux mains cette occasion que nous offre le pacte et la mettre à profit afin que dans quelques années, nous puissions regarder en arrière et nous dire enfin, nos pays sont à même d'aider les personnes atteintes de diabète à mener une vie productive et en bonne santé.
Invité du jour.
Notre invité du jour est une fois de plus le père Théodore Ndoli, prêtre du diocèse de Grand Bassam en Côte d'Ivoire, théologien, psychothérapeute du couple et de la famille. Dans cette deuxième et dernière partie de l'entretien qu'il nous a accordé sur l'année de la famille à Maurice Laetitia sur l'amour dans la famille, décrété le 27 décembre 2020 par le pape François, le père Ndoli nous parle de la mission des associations familles chrétiennes, AFC, en Afrique au cours de cette année de la famille. Il souligne en premier lieu la collaboration entre les prêtres et ces associations familles chrétiennes.
La famille est malade. La collaboration de mise l'association des familles chrétiennes et les prêtres. Le prêtre par sa formation, il a la science pour accompagner les familles. Il y a aussi ceux qui vivent au quotidien l'expérience de la famille. Donc c'est les deux entités qui doivent s'apporter pour travailler, pour être au sujet de la mère famille malade. Les prêtres font un travail, accompagnent, préparent les couples. Il faut que chacun découvre, que ce soit les prêtres, que ce soit les laïcs, comme le Saint-Père l'a dit, on invite vraiment à revoir la pastorale de préparation au mariage. C'est un peu trop plat. Il faut aider par l'élaboration, peut-être un manuel qui accompagne, aider à mieux accompagner les couples, que ce soit les couples ou dans l'éducation des enfants, comme l'a dit le pape, créer des cercles de réflexion et de paroles sur la beauté de la vie familiale et les difficultés également que rencontre la vie familiale. Et puis, aujourd'hui, il y a les familles blessées, il y a des couples en crise, tout, les accompagner. C'est le même travail, la même mission que les deux entités doivent remplir. L'association des familles chrétiennes et les prêtres. Je dis, les associations des familles chrétiennes peuvent faire mieux que ce qu'ils font là. Ils sont capables de beaucoup de choses. Alors que chacun prenne ses responsabilités pour que la famille se porte bien.
Alors, vous pensez que cette année va booster les choses au niveau de ces différentes associations familles chrétiennes en Afrique?
Je crois fermement parce que nous savons vraiment ce que constitue la famille. C'est pour cela que nous rejetons avec la dernière énergie cette histoire des nouvelles familles qu'on nous présente, les familles monoparentales féminines, la famille monoparentale masculine, les familles recomposées, et puis encore les familles issues d'unions contre nature. Nous rejetons cela parce que justement nous savons la valeur de la famille.
Quelques exemples d'activités que pourraient organiser les associations familles chrétiennes, mais aussi les prêtres pour aider à vivre cette année de la famille à Maurice Laetitia.
Le pape a décrété l'année et ça a été lancé le 19 mars. Et maintenant, au niveau de chaque église particulière et au niveau de chaque paroisse, choisis une date. La fin, c'est pour le 26 juin. Donc, choisis une date pour faire le lancement. Après quoi, on va dérouler des activités. Justement, au cours du lancement de l'ouverture de cette année au niveau paroissial, on pourra décliner les articulations de cette année. Une semaine consacrée aux enfants, consacrée une semaine à la femme, et puis consacrée peut-être la dernière semaine de cette année-là comme une conclusion qui va aider à ressortir vraiment les valeurs de la famille. À la fin, pourquoi ne pas arriver à une célébration collective de mariage et des gens qu'on aura plus le temps de former pour accompagner les familles? Parce que le fait d'être marié, peut-être depuis des années, ne nous rend pas aguerris à accompagner les familles. C'est vrai, on a l'expérience. Mais moi, je dis, il faut toujours ajouter la science à l'expérience. Donc, si on va préparer à côté des agents pastoraux, des gens qui ont à leur actif un nombre d'années de vie à deux, à qui on va donner la science pour accompagner les familles. Donc, c'est cette marche-là. Et comme ça, on aura quand même réussi à attirer l'attention des uns et des autres sur cette année consacrée à la famille avec tout ce que nous devons faire.
Cette année qui a été décrétée s'est ouverte le 19 mars en la solennité de Saint-Joseph, époux de Marie. Y a-t-il un sens à cela, le fait que cette année consacrée à la famille s'ouvre le 19 mars en la solennité de Saint-Joseph?
Le pape, c'est vraiment un fin professeur. L'année consacrée à la famille s'ouvre à la solennité de Saint-Joseph. Et pour l'époux qui incarne la famille, donc en choisissant la solennité de Saint-Joseph, c'est pour revenir encore sur cette valeur-là qui aujourd'hui, une valeur sociétale, une valeur spirituelle, et une valeur familiale qui aujourd'hui est battue un peu en brèche. L'époux, l'homme, l'époux comme chef de famille qui est battue un peu en brèche. Mais au-delà, c'est un symbole fort.
Saint-Joseph à qui une année spéciale lui a été décrétée. Alors, avec cette lettre apostolique Patrice Cordé, avec un cœur de père, c'est tout un sens.
Mais c'est une invitation aussi à aider les hommes à prendre leurs responsabilités. Les hommes qui ont démissionné, les hommes qui ont abandonné leurs enfants, qui ont quitté la maison, qui ne sont pas au devant de la gestion des affaires de la famille, c'est une invitation à prendre toutes nos responsabilités.
Quelque chose à dire sur cette année spéciale à Saint-Joseph?
C'est une question de justice. Depuis longtemps, la figure de Saint-Joseph a été mise sous éteignoir. On évoque la figure de la Vierge Marie, Mère de Dieu. Oui, c'est bon. Mais cet enfant, Marie, a été aidé dans l'éducation de Jésus par Joseph. Mais on fait moins cas de la figure de Saint-Joseph dans la doctrine de l'Église, dans nos textes et tout, dans nos prières. C'est pour cela que nous avons accueilli à juste titre, quand le Saint-Père a dit qu'il faut faire mention dans le canon de la messe, la prière de Saint-Joseph, comme on fait mention de la Vierge Marie. Parce que Saint-Joseph a joué tout le rôle qu'il fallait jouer. Lui dédier une année spéciale, ce n'est que justice.
Votre mot de fin?
Merci au pape de nous donner une année pour que nous puissions revenir à Maurice et Titia, redécouvrir ce trésor pour nos familles aujourd'hui qui sont en perte de vitesse, nos familles qui sont en crise. Je voudrais inviter toutes les familles, nos familles de nos différentes paroisses, de nos différents diocèses, à saisir la balle au vent pour vraiment vivre cette année comme il se doit.
Père Théodore Ndoli, prêtre du diocèse de Grand Bassam en Côte d'Ivoire, théologien, psychothérapeute du couple et de la famille.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est ici que nous mettons un point final à cette édition de notre programme qui vous a été présentée par Françoise Niamia. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie et surtout de votre fidélité renouvelée à Radio Vatican. Au revoir.